Salut, c'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Fabrice Nicolino. Qui a tué l'écologie ? Flight number 2, arriving from New York. Bon, ben voilà, l'écologie c'est fini. L'écologie est morte. Et bien morte, et Fabrice Nicolino, qui est l'auteur de bouquins qui marchent plutôt bien, un bouquin récent sur les pesticides, révélation sur un scandale français, un autre bouquin sur la bidoche, l'industrie de la viande menace le monde, et maintenant, donc, qui a tué l'écologie ? Alors Fabrice Nicolino, vous appelez un rebond, à une renaissance, à une remobilisation de l'écologie. On commence par la fin du bouquin. Et là, vous êtes quand même servi par l'actualité. La catastrophe de Fukushima, qui relance la question du nucléaire, qui relance la question de l'énergie. Il y a par ailleurs l'histoire du gaz de schiste dans lequel vous êtes impliqué, gaz et pétrole de schiste. Alors, pour l'instant, il y a une sorte de moratoire, mais qui ne trompe personne. Donc voilà, autant de thèmes, de sujets énormes. Et puis, ça va être, dans quelques jours, au mois d'avril, le 25e anniversaire de Tchernobyl. Tout ça, ça fait nombre d'éléments qui secouent complètement la planète écologique, mais bien au-delà.
Oui, ça nous renvoie à nous-mêmes, je dirais. Ça renvoie tous les humains à ce qu'ils sont sur cette Terre. Et en fait, ça fait réapparaître un monstre qui n'était assoupi que pour ceux qui dorment à point fermé, parce que ceux qui s'intéressent aux questions nucléaires savaient que tout tard, il se passerait quelque chose. C'est absolument évident quand on y réfléchit calmement. L'industrie nucléaire, c'est une industrie qui s'interdit de se tromper, qui s'interdit toute erreur. Est-ce que vous connaissez une industrie ou une activité humaine où l'erreur pourrait être interdite par décret, en quelque sorte ? Évidemment, c'est totalement absurde. Donc, on a essayé de nous faire croire, pour des raisons évidemment de propagande industrielle, hein, comme toujours du reste, on a essayé de nous faire croire que l'industrie nucléaire avait commis une erreur, c'était de confier des réacteurs finalement à l'Union soviétique post-stalinienne, où les bureaucrates auraient été incapables de gérer une technologie de pointe. On a essayé de nous faire croire il y a 25 ans que Tchernobyl était une exception à une règle, on peut dire, éternelle de bons offices nucléaires. Évidemment, il n'en était rien. En fait, ce que révèle pour les sourds et les malentendants quand même, ce que révèle la catastrophe japonaise, c'est que le nucléaire est une industrie anti-humaine, que par définition, elle échappe au contrôle des humains et que, en ce sens, c'est une industrie, à mon avis, criminelle, dont il faut se débarrasser de façon urgente. Donc c'est le plus urgemment qu'il est possible, parce que bien entendu, on ne sort pas d'une industrie ou parfois même d'une mono-industrie comme le nucléaire par un coup de baguette magique. Il faut une transition énergétique, il faut des scénarios énergétiques, il faut du temps, probablement une génération, mais en tout cas, il me paraît évident, au travers de cet exemple et de tant d'autres d'ailleurs, parce que vous parliez des gaz de schiste et des pétroles de schiste, au fond, c'est la même folie, c'est la même fuite en avant d'une société qui ne veut pas reconnaître ses limites, qui ne veut pas reconnaître qu'elle a outrepassé ses capacités, qu'elle a outrepassé les moyens dont s'est dotée la société humaine pour contrôler ses instruments de puissance, et qui donc veut continuer à produire de l'énergie sans savoir à quoi elle sert. On veut maintenant des gaz de schiste et des pétroles de schiste, tout simplement parce qu'on ne veut pas s'interroger sur le modèle énergétique dans lequel on vit. On ne veut pas s'interroger sur les besoins réels qui sont ceux des humains aujourd'hui sur Terre.
Ça peut dérailler et par accident, un tunnel peut s'effondrer par accident, un avion ça peut tomber par accident, une fusée ça peut foirer, ça peut arriver. Oui, mais les centrales, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Le biscotoli, 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 biscotoli. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, biscotoli. Un câble, ça peut casser. C'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Puisqu'on te le dit, 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 puisqu'on te le dit. Et toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit.
Fabrice Nicolino, qui a tué l'écologie? Alors, vous n'y allez pas de main morte. Pamphlet?
Je ne sais pas si c'est un pamphlet. Moi, ça ne me dérange pas. Le mot ne me fait pas peur, bien entendu. On peut appeler ça un pamphlet, on peut appeler ça un coup de gueule. On peut aussi appeler ça, parce que c'est vrai, une enquête.
C'est une enquête
documentée. J'attends, moi, finalement, qu'on réponde aux questions que je pose à partir d'exemples quand même qui sont tout simplement, à mes yeux, extraordinaires. Pourtant, je croyais en avoir vu pas mal au cours de ma vie. Mais là, puisque je ne savais pas ce que j'allais découvrir, je dois vous dire sincèrement que j'ai été soufflé par certaines découvertes.
Alors les découvertes concernent la bande des quatre, quatre grandes associations écologistes qui sont Greenpeace, qui sont WWF, qui sont la Fondation Nicolas Hulot et France Nature et Environnement. Et vous les alignez tous les quatre, les uns après les autres, et vous les décortiquez. Et ça fait très très mal. On découvre des choses, dans certains cas, dont on se doutait, d'autres dont on se doutait pas, mais on pensait pas, enfin pour ma part en tout cas, que les choses étaient aussi avancées, que le pourrissement était aussi avancé. Globalement, ces quatre associations, pour vous, ont une connivence, une proximité avec l'oligarchie, pour reprendre un mot qui est relancé récemment, c'est-à-dire avec les pouvoirs économiques et politiques. Trop grande proximité, voilà
ce qui
les caractérise tous les quatre.
Absolument, vous avez raison, c'est ça le reproche principal qu'on peut leur faire, mais ça va vraiment très loin. C'est-à-dire que ce sont des instruments imparfaits qui sont nés pour l'essentiel, on va dire, il y a une quarantaine d'années. Chemin faisant, ces associations qui au départ pouvaient avoir une authentique vivacité, hein, je pense à Greenpeace par exemple, bon, ces associations se sont notabilisées, ont noué des liens de plus en plus étroits avec les pouvoirs économiques, les transnationales, les pouvoirs étatiques, publics, ministériels, sur fond, faut bien le dire, je l'écris, donc je peux aussi le dire, sur fond de décoration, de petits fours, de réception, de tapes sur l'épaule, de connivence, de copinage, en effet, avec les pouvoirs économiques, financiers et politiques. Mais ça va vraiment très loin. Quand on prend l'exemple, par exemple, du WWF, qui a une réputation relativement bonne en France, le WWF, c'est une association qui a été créée en 1961. Pour aller vite, qu'est-ce que j'ai trouvé?
Ah non, mais n'allons pas trop vite, prenons le temps. Commençons par WWF. Ouais.
D'abord, c'est anglo-saxon. Ça a été créé au départ, c'est pas une association écologiste au départ. Vous me direz que c'est pas non plus une association écologiste à l'arrivée. Et je vous dirais, c'est vrai. Mais en tout cas, au point de départ, c'est une association d'aristocrates, avec l'aide de quelques scientifiques, qui en vérité souhaitent continuer à pouvoir tirer des gros animaux, de la grosse faune sauvage en Afrique. Et qui se disent, vu le rythme auquel disparaissent les animaux en Afrique à la fin des années 50, qui se disent, si on fait pas quelque chose, on n'aura bientôt plus rien à chasser. Je caricature pas, c'est ça le point de départ, en fait, de cette association. Et en même temps, l'association a été présidée d'emblée par un personnage absolument extravagant, qui est le prince Bernhard des Pays-Bas, qui est un homme de nationalité allemande qui s'est marié donc avec une néerlandaise et qui est devenu le prince Bernhard. Donc il a été le premier président du WWF international jusqu'en 1976. Pourquoi 1976? Tout simplement, en 76, il a été pris la main dans le sac puisqu'il a été mêlé à un scandale de corruption sensationnel autour de l'entreprise américaine d'aéronautique Lockheed. Et ayant été pris la main dans le sac, il a été obligé de démissionner aussi de ses responsabilités au WWF. Mais ce qu'on avait appris aussi, enfin ce qu'on a appris en fait après, c'est que Bernhard a été un membre du parti nazi. Vous me direz, c'est pas grave. Ça dépend comment on voit les choses.
Non, moi je vous dis pas, c'est pas grave.
Ça dépend comment on voit les choses. Non, mais je veux dire, il aurait pu éventuellement être
un gentil nazi.
Non, pas du tout, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment incompatible. Mais disons, on aurait pu, avec beaucoup d'indulgence, se dire, au fond, il a été nazi, il ne l'est plus. Et probablement ne l'était plus d'ailleurs en 1960-61. Mais c'est pas ça. La question, c'est que des personnages ont été complètement effacés de l'histoire du WWF, totalement effacés. Et parmi ces personnages, il y a un type qui est vraiment une clé pour comprendre l'histoire. C'est un Sud-Africain qui s'appelle Anton Rupert, que très peu d'auditeurs de la base de justice doivent connaître. Mais là, j'en dis quelques mots qui sont importants. Anton Rupert, c'est un milliardaire. C'est un homme qui est devenu une des plus grandes fortunes d'Afrique du Sud. Il a été PDG des Cigarettes Rothmans. Il a été, soit dit en passant, il a été aussi PDG quelque temps de Canal Plus chez nous. Et oui. Et Anton Rupert, qui était un milliardaire, donc, est mort en 2006, à l'âge de 89 ans. Et en fait, il a eu, on va dire, deux vies, au moins deux vies. Mais de vie très différente. Hein. La première, qui commence dans les années 40, jusqu'au milieu des années 70 du siècle passé, bah, c'est une vie au service de l'apartheid, au service du régime africanaire raciste de l'Afrique du Sud. Il a été membre d'une association qui s'appelle Brother Bond, qui s'appelle la Ligue des Frères, qui était au cœur même du système d'oppression raciste en Afrique du Sud, jusqu'à l'élection de Nelson Mandela. Donc ça, c'est un fait certain, et sur la base de sources très sérieuses et recoupées. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que ça pourrait s'arrêter là, mais le problème, c'est que ça n'est que le début. C'est-à-dire, Anton Rupert, il est donc contacté par le prince Bernhard, cet ancien militant nazi, pour devenir l'organisateur et financier du WWF international, la structure internationale du WWF. Bernhard est un sympathisant du régime africanaire. Il contacte Rupert et il lui demande d'organiser le WWF international donc dans les années 60. Il faut de l'argent pour ça. Rupert, certes, en a, mais il imagine un système, on va dire, opaque, qui est resté opaque jusqu'à aujourd'hui, figurez-vous, donc près de 50 ans plus tard. Ce système opaque, ça s'appelle le Club des 1001. 1001 comme 1001 donateurs. Et aujourd'hui, j'en ai fait l'expérience, aujourd'hui encore, le WWF refuse de livrer les listes de ce club des riches qui soutiennent financièrement le WWF. C'est interdit, on ne peut pas en parler. J'ai envoyé des messages au WWF d'Afrique du Sud, au WWF international, pas de réponse, c'est le silence total sur cette affaire. De quoi s'agit-il? Le club des 1001, qui est un club des riches qui a financé donc le WWF à la demande d'Anton Rupert, eh bien, dans les premières années, j'ai des listes, moi, complètes, qui portent sur 3 années. Eh bien, on voit apparaître des personnages vraiment insupportables, mais insupportables, parmi les financiers du WWF. Qui, parmi ces gens insupportables? Eh bien, par exemple, Mobutu. Figurez-vous que Mobutu,
le maréchal
Mobutu, l'immonde dictateur de l'ancien Zaïre en Afrique, l'un des hommes les plus corrompus de l'histoire humaine, eh ben, a été un des financiers du WWF international. Robert McNamara, alors je vais dire qui il est pour les plus jeunes de vos auditeurs. Robert McNamara a été le secrétaire à la défense des États-Unis d'Amérique. Absolument, à ce titre, on peut dire qu'il est le principal responsable des bombardements massifs aériens sur les villes du Vietnam, sur les rizières du Vietnam. C'est véritablement, on peut le dire, c'est un assassin. Et cet homme-là, qui ensuite a présidé la Banque mondiale, eh bien, a été parmi les financiers du WWF international. Chez nous, on trouve par exemple le député maire du Front National, Charles de Chambrun, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a été député et maire de Saint-Gilles dans le Gard, Front National. Comme j'ai moi une liste qui date de 88 et que Charles de Chambrun a été élu député du Front National en 86, ça veut dire qu'en 88, le WWF estimait normal de faire financer ses activités par un député maire du parti de Jean-Marie Le Pen. Je crois que c'est important de le savoir. Tout de même, c'est pas une affaire si indifférente que cela. Alors certains pourraient dire, oui, c'est de la vieille histoire, vous nous sortez des vieux trucs, des vieux machins, ça date de 20 ans, ça date de 30 ans, ça date de 40 ans, ça date de 50 ans, etc. Très bien. Prenons la situation actuelle du WWF, et vous allez voir tout de suite que la manière dont le WWF est vraiment mouillé dans des histoires, mais qui me paraissent vraiment insupportables. C'est-à-dire, quand je dis insupportable, c'est pas une manière de me faire plaisir avec un mot. Ça me fait mal de le penser, de le savoir, mais je le dis aussi. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, le WWF international, qui est mouillé dans des combines, il faut le dire, avec des transnationales, les pires de la planète, Monsanto par exemple. Il faut savoir que le WWF international siège dans une structure informelle qui s'appelle une table ronde, un siège escalité et sert d'alibi et de caution à un rassemblement d'industriels pour essayer de définir les contours d'un label commercial permettant de vendre dans le monde entier du soja. Soja, je le dis en passage, j'insiste pas, mais qui est une arme de destruction massive des écosystèmes et qui s'attaque évidemment en Amérique latine, au Paraguay, en Argentine, au Brésil, aux vieilles communautés paysannes, aux communautés indiennes, parce que le soja remplace peu à peu des milieux comme la forêt tropicale, des milieux comme le cerrado, qui est la savane au Brésil, qui est un milieu d'une biodiversité absolument exceptionnelle, et des lieux où habitaient évidemment des paysans, des Indiens. Le soja, qui était inexistant il y a 40 ans en Amérique latine, couvre aujourd'hui peut-être 45 ou 50 millions d'hectares dans ces pays-là. Et c'est, dans la plupart des cas, du soja transgénique, du soja OGM. Les grands industriels, dont Monsanto, veulent vendre ce soja de par le monde. C'est beaucoup mieux s'il y a un label dit durable ou dit soutenable. En tout cas, c'est beaucoup mieux s'il y a un label breveté WWF. Eh bien, le WWF, aux grandes dames des associations de bataille sociale, de combat paysan en Amérique latine, je connais certains de ces militants très valeureux qui se battent en Amérique latine contre ce système complètement criminel. Eh bien, aux grandes dames de ces associations, le WWF accepte de siéger dans une table ronde avec Monsanto pour définir les contours d'un label commercial. C'est vrai avec les biocarburants, ce qui est inouï à mes yeux, puisque les biocarburants, par définition, c'est une industrie criminelle qui consiste à changer des plantes alimentaires en carburant automobile, dans un monde où, je vous le rappelle, il y a quand même 1,2 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Donc le WWF fait pareil avec les industriels du biocarburant, fait pareil avec les industriels de l'industrie de l'huile de palme, pardon.
Qui finance le
l'industrie,
WWF ?
L'industrie, très, très largement.
Qui ?
En France, par exemple, il y a des partenariats avec Bouygues, par exemple. Il y a des partenariats avec le cimentier Lafarge. Le cimentier Lafarge, il faut comprendre ce que c'est qu'un cimentier dans l'économie mondialisée qu'est la nôtre. Les cimenteries sont parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Donc, en nouant des contrats avantageux pour le WWF, mais avantageux pour l'industriel, en agissant de la sorte, on achète, comme au Moyen-Âge, des indulgences, comme on faisait
voilà,
avec...
Voilà, c'est ça, on blanchit son image, on verdit son image.
C'est du greenwashing à fond, c'est-à-dire que Lafarge a des casseroles au cul, pardonnez-moi l'expression, dans un grand nombre de pays de la planète, hein, au Bangladesh, notamment en Inde et ailleurs. Hein. Ils se sont heurtés à une opposition massive et formidable, d'ailleurs, en France, au large de Quiberon. Lafarge voulait extraire des quantités phénoménales de sable, et il y a eu une levée en masse d'associations en Bretagne, autour d'une fédération qui s'appelle le Peuple des Dunes. Ils ont carrément dit qu'ils n'entendaient pas négocier avec Lafarge et ils ont gagné. Lafarge a reculé parce qu'évidemment, le risque pour son image de marque était trop grand. En revanche, quand il s'agit du Bangladesh ou de l'Inde ou d'autres pays du Sud, évidemment, c'est pas pareil. Donc, il y a Bouygues, il y a Lafarge et il y a comme ça toute une série de partenariats avec des industriels parce qu'en fait, il n'y a aucune opposition. Comment vous dire ? Ces gens soutiennent le système industriel. Ils ne sont pas en opposition avec le système industriel. Ils applaudissent ce système, ils le soutiennent de toutes les façons possibles et en fait, ce qu'ils prétendent faire, c'est à la marge changer tel ou tel comportement, espérer qu'un jour viendra, mais quand, dans 50 ans, dans 200 ans, dans 3000 ans, où les industriels auront changé leurs pratiques et seront devenus vertueux. Mais ça, c'est de la pure rigolade. Ça n'a aucun sens recevable. C'est aujourd'hui la crise écologique, c'est pas dans 200 ans.
WWF présente Urgence Climat, sa compilation officielle pour Copenhague, avec Trio, Yannick Noah, Zazie, Florent Pagny, Jean-Louis Aubert, Cynthia Emilia, M. Urgence Climat, 1 euro reversé à WWF par CD.
On continue avec Fabrice Nicolino. Qui a tué l'écologie ? Ça chauffe très dur, ce bouquin. Alors là, on va passer au suivant. Il y en a quatre. Hein. On a vu rapidement, on a survolé le cas de WWF. Moi, je pense que je ne verrai plus jamais le petit panda, si mignon, dans les aéroports, avec la tirelire. On met trois petits sous, comme ça, généreux, pour sauver la nature sauvage. La nature sauvage, la vraie.
Ben moi non plus. Hein. Je veux dire, c'est fini.
Bon, c'est fini. On continue. Continue. Au suivant, Greenpeace. Alors, Greenpeace, il faut dire quand même une chose, Fabrice Nicolino, c'est que là, on vous voit pas, mais vous êtes pas un perdreau de l'année. Vous êtes dans l'écologie depuis longtemps et vous connaissez beaucoup des gens donc, oui. Que vous critiquez. Oui. Et c'est le cas, par exemple, de Greenpeace. Vous les connaissez depuis très longtemps.
Oui. J'ai une sympathie et même de l'affection pour la vraie fondatrice de Greenpeace en France, hein, qui s'appelle Katia Ganas. Je remets pas en cause cette affection que j'ai pour elle. Et bon, elle est un peu en marge aujourd'hui de Greenpeace, même franchement en marge, mais elle a joué un rôle très très important, fondateur. Elle y est revenue après s'en être fait virer dans des conditions que je ne peux pas raconter ici, mais qui sont très intéressantes elles aussi.
Et bon, qu'est-ce que vous leur reprochez à ces gens-là ?
C'est devenu une boîte. Greenpeace est devenu une entreprise. Une entreprise, on peut dire une entreprise capitaliste, non pas ordinaire, très performante. très très performante. Greenpeace est né en 71. En 71, c'était une bande de hurluberlus, chevelus, moustachus, barbus, ce qu'on pourrait nommer aujourd'hui, si on voulait être vache, des babacools, mais des gens très sympathiques et très combatifs. Le premier acte de gloire et l'acte de naissance de Greenpeace, c'est affréter un vieux chalutier au Canada et partir à l'aventure pour essayer d'accoster sur une île de l'Alaska, Amchatka, où se déroulaient traditionnellement des essais nucléaires aériens américains. Donc les ancêtres de Greenpeace, les premiers Greenpeace, avaient affrété ce bateau pour aller stopper par leur seule présence les essais nucléaires aériens sur cette île d'Alaska. Donc ceux-là, ils ont toutes ma sympathie, vous l'imaginez bien, je suis parfaitement à l'aise avec ces gens-là. Le problème, c'est que ces gens ont totalement disparu de la scène. Et au fil des ans et des décennies, Greenpeace est devenue une association, mais incroyablement consensuelle malgré les apparences, et surtout une association qui n'a de nom que le nom, si vous me permettez, qui a intégré des techniques de marketing qui sont celles de l'industrie, qui consistent en fundraising, c'est-à-dire il s'agit de constituer des fichiers très très importants.
Faire de la levée de fonds.
De la levée de fonds, c'est-à-dire y compris dans les rues, au téléphone, et transformer les militants d'antan en spectateurs de l'affaire, transformer les militants en donateurs, transformer tout ça en un spectacle où, sur le devant de la scène médiatique, il y a des gens qui font des actions dont on ne sait pas très bien à quoi elles servent et si même elles ont une efficacité, mais qui permettent de diffuser des images, de montrer qu'on est actif et donc de demander du fric à des donateurs qui n'ont aucun pouvoir en retour sur l'association. Donc c'est une association de donateurs, de militants, il n'y en a plus, il n'y en a tellement plus qu'aujourd'hui, à Greenpeace France, ils sont allés chercher le directeur actuel de Greenpeace France, que je connais, Pascal Hosting. Ils sont allés chercher au Luxembourg, où Pascal Hosting était un financier. Il faut quand même le dire, c'est quand même très important. Il ne le conteste absolument pas, il le revendique même, donc on peut le dire. Pascal Hosting était un financier au Luxembourg. Il conseillait des entreprises, y compris des transnationales, pour de l'optimisation fiscale. Je crois que je n'ai pas besoin de vous faire trop de dessins sur ce que ça signifie. Il donnait des conseils, y compris dans des cas difficile qui pouvait conduire à des licenciements. Et c'est pour cela qu'il a été recruté par un cabinet de recrutement en France. Et c'est pour ça qu'il est devenu le directeur de Greenpeace France, où il a en effet amélioré les comptes de Greenpeace France de manière spectaculaire. Ça, il n'y a aucun doute.
Mais quel est le budget d'une association comme Greenpeace? Vous avez une idée?
De Greenpeace France, je ne sais pas le chiffre
mondiale,
en tête.
Oui,
c'est des dizaines de millions d'euros. En fait, Greenpeace est devenue une transnationale. Est-ce qu'elle sert les intérêts de l'écologie? Franchement, aujourd'hui, je ne le crois plus. Mais je vais vous lire juste deux ou trois bricoles, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et c'est quand même impressionnant. C'est Pascal Hosting qui déclare ça. Donc c'est en décembre 2010, hein, il y a quelques mois à peine, dans une enquête du Nouvel Économiste, il dit ça. Après des études d'éducation physique et de philosophie, j'ai enseigné durant 4 ans avant d'intégrer au Luxembourg le cabinet de conseil Grant Thornton, à l'époque le 7e derrière les Big Six. Rien ne me prédisposait à entrer dans ce milieu-là, si ce n'est l'envie de gagner de l'argent. Très bien, c'est son droit. Après, il dit, le fait d'avoir conseillé des grands groupes sur des montages fiscaux légaux dans des centres offshore, comme les îles Vierges, m'a inspiré pour une idée de campagne à développer pour Greenpeace. Très bien. Alors, ensuite, il dit, l'objectif peut se résumer ainsi. Au lieu d'être des militants exerçant une profession dans le monde associatif, devenons des professionnels qui continuent à militer. Nous sommes donc sortis de la logique voulant qu'un salarié de Greenpeace soit recruté de manière prioritaire parmi les militants. Ce qui a bien sûr engendré des tensions énormes en interne. Sur les 45 salariés présents au moment de mon arrivée, 25 ont quitté Greenpeace. Certains sont partis parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre cette logique de professionnalisation. D'autres ont été licenciés, mais de manière motivée et aucun recours devant le Conseil des Prud'hommes n'a été gagné. Voilà donc un homme qui est le directeur d'une association soi-disant écologiste et qui se flatte d'avoir conduit des gens devant le tribunal des Prud'hommes et qui se flatte que ces gens n'aient pas gagné leur procès devant le tribunal des Prud'hommes. Quel patron de combat oserait tenir ce type de discours devant un micro aujourd'hui? Je ne sais pas si on en trouverait si facilement que cela.
Yvan nous appelle de l'Ain. Bonjour Yvan.
Bonjour Monsieur Hulot.
France Inter.
Voilà, donc moi je suis un écologiste dans mes pratiques au quotidien, surtout on va dire. J'y crois fermement, j'entends bien votre discours.
6 octobre 2009.
Et en fait, je me pose des questions. Voilà, je me pose la question surtout de savoir s'il n'existe pas une contradiction entre le fait que vous soyez financé par des sociétés multinationales qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que nous diminuions nos échanges et notre consommation au quotidien. Et le fait que vous, ben, de notre côté, vous puissiez dire qu'il faut absolument changer nos modes de consommation. Parce que votre discours, il est très bien, mais dans vos pratiques, et surtout dans vos financements et dans les sociétés qui vous financent, je ne comprends pas.
Merci Yvan pour cette question. Nicolas Hulot.
Alors, il faut essayer de bien comprendre une chose. Moi, j'ai une fondation reconnue d'utilité publique. Comme dans tout engagement, il faut des moyens. Il faut des moyens humains et il faut des moyens financiers. J'ai pas trouvé, mais si on me trouve un autre moyen, d'autres moyens que pour trouver des financements, d'aller frapper des acteurs économiques. D'ailleurs, au passage, moi, je n'ai pas une vision diabolique du monde économique. Je ne les mets pas tous, évidemment, au même niveau. C'est aussi le monde du travail. Donc, je préfère aller chercher des moyens auprès des acteurs économiques à deux conditions exclusives. D'abord, dans une relation de mécénat qui est encadrée par la loi, c'est-à-dire que ce n'est pas donnant-donnant. Et la deuxième chose, c'est qu'en aucun cas, ça contraigne ma liberté de parole et ma liberté d'expression et ma liberté d'action.
Vous n'avez pas peur d'être, de devenir une caution pour les entreprises qui n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes intérêts que vous ?
Mais vous savez, c'est comme les politiques, ça les contraint aussi à évoluer, ça les contraint à avancer.
Je voulais juste revenir à EDF. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur la façon dont EDF ou une autre entreprise de genre-là peut utiliser votre image et le fait qu'elle...
Mais ils ne peuvent pas l'utiliser.
Et le patron d'EDF n'a pas le droit de dire « mais je finance Nicolas Hulot, laissez-moi tranquille ».
Enfin, il ne le dit pas comme ça. Mais enfin, je sais pas, ça me paraît normal qu'on aille chercher de l'argent là, que ça soit à ces groupes-là de nous permettre d'agir. Si j'allais chercher de l'argent prioritairement chez les particuliers, on me dirait
« mais c'est pas... » Eux, ils le font avec le nucléaire,
Thomas, là, c'est bon maintenant.
On continue avec Fabrice Nicolino. Qui a tué l'écologie ? On en est au troisième de la bande des quatre. Qui s'appelle Nicolas Hulot, avec sa fondation, Fondation Nicolas Hulot. Et celui-là aussi, que vous connaissez, avec qui vous avez eu ou vous avez des relations amicales, vous lui faites sa fête.
Ouais, c'est vrai, je reconnais. J'assume. Bon, c'est un type pour qui j'ai de l'estime, mais ça ne m'empêche pas de voir clair quand même. Qu'est-ce qu'il faut dire de Nicolas Hulot ? D'abord, il faut redire, tant pis si ça lui est désagréable, qu'il n'a pas rompu avec les liens qui le tiennent liés à l'univers industriel. Je crois qu'il faudrait être naïf pour le croire. Nicolas Hulot, au conseil d'administration de sa fondation, siège par exemple TF1. C'est quand même pas l'ami des grands espaces, que je sache. Siège EDF. EDF, notre monopole de l'électricité, notamment nucléaire. Siège L'Oréal. Siège des entreprises de cette sorte-là. Donc, il n'est pas naïf à ce point, tout de même. Il est très naïf, mais pas à ce point. Nicolas Hulot sait ce qu'il fait. Et donc, il reste lié à l'univers de la marchandise et à l'univers de la grande industrie. Ça, c'était une première chose. Deuxième chose... Alors là, oui, je crois qu'on peut l'accuser de naïveté. Moi, parlant de lui, j'utilise beaucoup l'expression « boy scout » parce qu'on a l'impression avec lui qu'on entre dans un monde enchanté où si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main, ça serait merveilleux. Sauf que les gars du monde veulent pas se donner la main, donc c'est pas merveilleux. Et on se retrouve dans une situation qui est aux limites du grotesque. Par exemple, Hulot a rencontré en tête-à-tête des dizaines de fois Jacques Chirac. Des dizaines de fois. Et donc, il a passé des dizaines, peut-être davantage d'heures en tête à tête à essayer de convaincre Chirac que la crise écologique était une affaire sérieuse. Est-ce qu'il a réussi ? Évidemment, pas du tout. Il aurait pu en tirer des conséquences radicales ? Pas du tout. Après que Jacques Chirac a eu quitté l'Élysée en 2007, eh ben, il a recommencé finalement, peut-être avec moins de sympathie pour le personnage, mais il a recommencé de la même manière avec Sarkozy. J'ajoute quelque chose sur sa fondation. Sa fondation, si vous voulez, j'ai dit dans le livre que c'était une sorte de regroupement censitaire. Franchement, on se croirait revenu aux temps anciens où il n'y avait pas le suffrage universel. Autant que je sache, il y a une femme qui siège au comité de veille écologique de Nicolas Hulot. Le comité de veille écologique, c'est une sorte de comité d'experts. Donc Hulot veut pouvoir parler en étant validé en quelque sorte dans ses propos par des experts qu'il a choisi lui-même. C'est bien son droit. Mais il a rassemblé donc une bande d'experts qui ont, pour reprendre l'expression gentille que vous avez utilisée tout à l'heure pour moi, qui ne sont pas des perdreaux de l'année, qui sont presque exclusivement des hommes. Donc évidemment, aucun ouvrier, aucun artisan, aucun paysan, aucun représentant du Sud, aucun jeune. c'est tout à fait extraordinaire. On est en face d'une représentation censitaire du monde. Et on croit qu'avec ça, en rassemblant des experts, des écologues, des trucs machin chose, des ingénieurs, on va pouvoir porter un diagnostic fiable sur l'état de la planète et sur l'état des relations écologiques et donc sociales dans un pays comme la France. C'est d'emblée ridicule. Mais c'est pas seulement ridicule. Parce que, par exemple, sur l'affaire du nucléaire, on en a parlé tout à l'heure avec ce drame épouvantable du Japon, bah, évidemment, la Fondation Hulot a toujours été extrêmement empruntée sur la question du nucléaire. Au point que, une mission parlementaire toute récente a publié une interrogation que je reprends à mon compte. Est-ce que la présence d'EDF au conseil d'administration de la Fondation Hulot a pu jouer dans la manière dont la Fondation Hulot a parlé du nucléaire depuis plusieurs années? Est-ce que ça pourrait expliquer, se demandent des parlementaires, est-ce que ça pourrait expliquer la modération, c'est le mot de la commission, de la mission parlementaire, la modération de la Fondation Hulot concernant le nucléaire? Il est vrai que Nicolas Hulot, jusqu'à ce jour, hein, ça est en train de changer sur fond de catastrophe nucléaire au Japon, mais jusqu'à ce jour, est resté extrêmement évasif sur sa vision de l'industrie nucléaire. Et j'ajoute que l'un de ses experts, Jean-Marc Jancovici, pour ne pas le nommer, qui est l'expert de Hulot pour les questions d'énergie, polytechnicien, eh bien, il a été consultant pour Areva et EDF. Et il y a 2 ans, j'ai vu ça pas plus tard que ce matin, et je vous le dis franchement par hasard, c'était pas en relation avec l'émission de ce soir, mais j'ai donc vu un court extrait d'une interview qu'il donnait à Jean-Jacques Bourdin sur RMC il y a 2 ans. Jean-Marc Jancovici dit textuellement « Oui, j'adore le nucléaire. Oui, je suis farouchement pour le nucléaire. » Il dit ça textuellement. Et ce type, Jean-Marc Jancovici, est donc l'expert de Nicolas Hulot en matière nucléaire. Évidemment, ça fait légèrement désordre pour ce qui concerne les positions de cette Fondation Hulot. Mais à l'arrivée, on a une structure qui tourne autour d'un personnage médiatique qui a apporté pas mal de choses au débat, je dirais. Il a permis de populariser, de rendre clair et intelligible des enjeux, notamment dans le domaine de la biodiversité. Mais comme il n'a aucune conscience de ce qu'est une société humaine, des rapports de force qui l'animent, de l'existence de classes sociales et d'intérêts sociaux différents, divergents ou contradictoires, comme il ne sait pas comment ça marche, comme il n'a pas rompu avec l'univers industriel et les transnationales qui dominent le champ du système industriel, évidemment, il est totalement incapable de nous aider à faire face à la crise écologique. C'est bien pourquoi, même si je pense qu'il va se présenter, c'est bien pourquoi, pour ce qui me concerne, je ne voterai pas pour lui.
C'est les carences de Monsieur Hulot.
Absolument.
Qui respecte la France d'en bas comme celle d'en haut. Nicolas Hulot. Qui respecte les animaux et même les mulots. Nicolas Hulot. Le sort du monde entier passe avant ses trucs perso. Nicolas Hulot. Parmi nos grands hommes, qui a le cœur le plus gros. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est toi le plus beau. Nicolas Hulot, c'est toi qu'il faut.
On continue, on est toujours avec Fabrice Nicolino qui a tué l'écologie. On a fait WWF, Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot. Il nous reste France Nature Environnement, FNE. 3000 associations sont regroupées sous ce sigle. Et France Nature Environnement tire 65% de ses ressources de fonds publics.
Voire 70%.
70%. Et vous suggérez, avec cette mauvaise foi qui est la vôtre, que cette fédération pourrait être un peu dans la main du gouvernement.
Elle l'est. Elle l'est, il y a des signes sans équivoque. D'abord, c'était le principal soutien de cette opération politicienne connue sous le nom de Grenelle de l'environnement. Vous avez raison de rappeler, parce que c'est évident que la question de l'argent domine beaucoup d'autres. Donc, entre 65 et 70% du financement de France Nature Environnement vient de fonds publics. Voilà, on en est à ce point de l'histoire où FNE, qui a fait aussi des partenariats avec Veolia, avec Suez, l'ancienne Lyonnaise des Eaux, donc FNE qui a un énorme fil à la patte parce que la fédération est tenue par ses financements, eh bien, n'a cessé au fond d'applaudir à tout ce que faisait le gouvernement, Jean-Louis Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet, Chantal Jouanneau.
Voilà, Jean-Louis Borloo, Chantal Jouanneau, Nathalie Kosciusko-Morizet, ça c'est c'est des noms qui sont liés au Grenelle de l'environnement. Et si il y a une réponse à la question que vous vous posez vous-même, qui a tué l'écologie, le Grenelle de l'environnement, l'un des assassins de l'écologie à vos yeux. Alors on va faire court là-dessus parce qu'il faut quand même qu'on aille à la conclusion, mais c'est quand même, vous voyez là une entourloupe. Jean-Luc Porquet du Canard Enchaîné avait vu là une supercherie. Attac avait vu dans le Grenelle de l'environnement une dépolitisation de l'écologie politique et une instrumentalisation de l'environnemental contre le social. Alors ça fait un petit peu savant comme ça, mais enfin, il y a quand même cette volonté d'opposer les deux choses, hein, les deux notions, les deux grands champs, le social et l'environnemental.
Oui, c'est tragicomique, disons. Première chose, c'est franchouillard, c'est vraiment à pleurer de franchouillardise. C'est-à-dire que 40 ans après, on fait semblant de croire que les questions de l'écologie, de la crise écologique, qui est planétaire, peuvent se régler à l'échelle de la France. Franchement, il y a de quoi pleurer. C'est ridicule, ça n'a absolument aucun sens. On se met autour d'une table. Je rappelle quand même que le Grenelle de 68, c'était des syndicats ouvriers, des représentants patronaux et des représentants de l'État qui s'étaient autour d'une table parce que dehors, dans la rue, il y a 10 millions de salariés en grève et qu'il y a une pression sociale considérable. Le Grenelle, tout se fait à froid. N'est-ce pas? En fait, il s'est agi d'une opération politicienne vulgaire, hein, mais parfaitement limpide, de Nicolas Sarkozy, qui a vu monter, il lit les sondages, vous savez, Sarkozy. Donc, il a vu monter les préoccupations écologiques dans l'opinion à partir de 2006. Il y a eu l'opération Hulot, est-ce qu'il se présente, est-ce qu'il se présente pas? Le pacte écologique était signé par des centaines de milliers de personnes, etc., etc. Il a vu monter ça et il s'est dit, il faut faire quelque chose. Bien entendu, il faut faire quelque chose. Et on lui a apporté sur un plateau d'argent une idée à partir de laquelle il a rebondi instantanément, l'idée de réunir autour d'une table, en bons camarades, tout le monde, les écologistes, les industriels, les agriculteurs industriels, les fabricants de pesticides, les grands ingénieurs d'État, tous les gens qui ont des intérêts opposés se retrouvent autour d'une table, hors toute pression sociale, donc à l'absence de tout rapport de force dans la société, et puis on allait régler toutes nos petites histoires, on allait faire ce que Sarkozy a osé appeler une révolution écologique, parce que n'oublions pas qu'il a osé appeler ça une révolution écologique. Si vous voulez, c'était une sorte de grand-messe, de pantomime, où on faisait semblant qu'il n'y avait plus de contradiction, qu'il n'y avait plus d'opposition, que tout le monde, c'était une logique de Boy Scout. Alors là, Hulot était vraiment à son aise, puisque on effaçait tous les conflits sociaux, en effet, écologiques, politiques, industriels. Et en fait, comme on était entre gens de bonne compagnie, eh ben, il suffisait de parler ensemble et on allait régler tous les problèmes et se lancer dans une révolution écologique. Mais en même temps, en évacuant le nucléaire, en évacuant les biocarburants, en évacuant la question de l'eau, en évacuant la question des nanotechnologies, en évacuant la question des téléphones portables, en évacuant toutes les questions qui auraient pu, si peu que ce soit, fâcher les industriels. Je vais raconter une histoire qui est très simple et qui, à mon avis, décrit parfaitement l'histoire telle qu'elle s'est déroulée pendant le Grenelle de l'environnement. J'étais chez moi, c'est un matin d'octobre 2007, vers la fin du Grenelle, je reçois un coup de fil, vous direz pas qui, mais disons un responsable écologiste totalement triomphal et qui me dit « c'est formidable, c'est une révolution, la France s'engage enfin dans un changement extraordinaire, tu peux pas savoir, voilà, là, maintenant ça y est, Sarkozy a accepté de réduire de 50% l'usage des pesticides en France en 10 ans, hein, qu'est-ce que t'en dis, etc. etc. » Je raccroche, très franchement, je me dis « réduire de 50% l'usage des pesticides en France en 10 ans ?» Ouais, quand même, ça, c'est pas seulement symbolique, c'est quand même quelque chose de relativement important. Et j'ai pensé ça, je vous le dis sincèrement, un quart d'heure de temps, j'ai pensé ça. Au bout d'un quart d'heure, j'apprends le changement de donne. C'est-à-dire que, oui, il y a eu cette annonce de Borloo, mais entendant cette annonce de Borloo, un certain Jean-Michel Le Bétayer, président à l'époque de la FNSEA, le syndicat de l'industrie et de l'agriculture, le syndicat de l'agriculture industrielle, Jean-Michel Le Bétayer est sorti de la séance. Il n'était pas content, Jean-Michel Bétayer. Cette annonce lui défrisait les moustaches et il sort. Où est-ce qu'il est allé? Je ne sais pas. Je suppose et subodore qu'il a dû téléphoner, qu'il a dû téléphoner aux bons endroits, car il est revenu en séance quelques temps après et il a annoncé, c'est lui qui était soi-disant un acteur secondaire du grand jeu du Grenelle, c'est lui qui a annoncé la vraie mesure, celle qui a été retenue finalement. Il a dit, attention, oui, la France s'engage à réduire de 50% l'usage des pesticides en 10 ans, si c'est possible, si c'est possible, et on en est resté là. C'est-à-dire, comme ça ne va pas être possible, eh ben on ne le fera pas, et on ne le fait pas, et on ne va pas le faire. Donc, si vous voulez, c'est typiquement le Grenelle de l'environnement, c'est typiquement ça. Franchement, si j'avais un défenseur du Grenelle devant moi, je lui demanderais calmement, qu'est-ce qui reste du Grenelle de l'environnement en mars 2011? Il aurait du mal à me répondre autre chose que rien.
Fabrice Nicolino, qui a tué l'écologie? ça y est, là, vous avez attaqué tout le monde. Greenpeace, WWF, la Fondation Nicolas Hulot, France Nature Environnement, le Grenelle de l'environnement. On a rapidement évoqué les nobles silhouettes de Jean-Louis Borloo, Chantal Jouanneau.
Ouh. Non, mais Chantal Jouanneau, il y a un truc qui... Excusez-moi, mais là, il faut aller voir sur le net. Il y a une séquence qui est prodigieuse. Il y a l'adresse dans le bouquin. C'est pas pour vous faire acheter le livre, mais il y a une séquence que j'ai regardé au moins 25 fois et à chaque fois, je pleure de rire. Vraiment. On la voit au QG de Nicolas Sarkozy, un peu avant l'élection de 2007, et elle explique pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait pour le compte de Nicolas Sarkozy. Je vous le conseille.
Je suis Chantal Jouanneau, je m'occupe auprès de Nicolas Sarkozy des publics, c'est-à-dire des chasseurs, des rapatriés.
Mai 2007.
Des personnes françaises d'origine étrangère, mais aussi des professions particulières, les boulangers, les bouchers, les pharmaciens, tous les publics qui comptent et qui ont des préoccupations spécifiques.
Quelles sont vos fonctions au QG de campagne, Chantal ?
Mais je vais m'occuper auprès de Nicolas Sarkozy des publics spécifiques. Alors, ce qu'on entend par public, ce sont les rapatriés, par exemple, les chasseurs, mais aussi toutes les professions particulières, comme les boulangers, les bouchers, les pharmaciens, toutes les personnes qui ont des préoccupations spécifiques.
Alors, vous savez ce qui se passe quand on arrive au terme d'un entretien comme celui-là, c'est... Et qu'est-ce que vous proposez, vous, maintenant, de positif? C'est bien malin, vous cassez tout.
De positif, eh bien, écoutez, d'abord, je pense que les instruments qui ont été forgés il y a 40 ans, ils ne servent plus les intérêts pour lesquels ils avaient été inventés, donc il faut les faire disparaître. Je suis pour la disparition de cette bande des quatre. Je pense que l'époque est suffisamment grave, voire tragique, pour que nous inventions collectivement de nouvelles formes politiques. Démocratique. Il faut créer des formes nouvelles, notamment des formes capables de relier nos combats à celui des peuples du Sud, parce que ça, c'est comme le grand oublié de tous ces blabla, de toutes ces proclamations écologistes. Je pense, mais ça va pas nous avancer beaucoup, je suis convaincu qu'il faut préparer activement une révolution intellectuelle et morale dans ce pays.
Oui, enfin, vous dites même affronter le système industriel, absolument, affronter l'oligarchie, assumer la perspective de l'affrontement. Là, oui, on n'est plus chez Bisounours.
Non, mais bien sûr que oui, j'assume 100 fois ces propos-là, je les revendique hautement, parce qu'en effet, le monde n'est pas fait de Bisounours, comme le croit Yann Arthus Bertrand. Disons, pour aller vite... Je pense qu'on est peut-être, bon, bien sûr dans un contexte qui n'a rien à voir, mais on est peut-être en 1760, alors qu'il faudrait qu'on soit en 1789. Et c'est le problème, c'est de savoir comment rétrécir le temps qui nous sépare d'un vrai mouvement populaire reliant les forces du Nord et les forces du Sud, avec comme perspective, en effet, un affrontement avec le système industriel. Parce que de toute façon...
Un affrontement avec le système industriel, un affrontement avec l'oligarchie politique... Ça s'appelle une lutte contre le capitalisme, mon cher Fabrice Nicolino. On ne peut pas être à mi-chemin dans ces affrontements-là.
Écoutez, moi, je me veux non-violent. Je ne sais pas si la non-violence nous permettra de sortir de cette crise qui est ultra-violente. Je veux dire, je ne suis pas un bisounours. C'est-à-dire, je crois que l'affrontement est l'horizon de l'humanité. Et je pense qu'il faut essayer de faire en sorte d'éviter un affrontement violent. Est-ce qu'on pourrait y parvenir? Je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est que la perspective, c'est ou d'abattre le système industriel des transnationales qui domine le monde et qui nous mène au gouffre, ou accepter d'aller au gouffre. Je pense que l'alternative, elle est là. Et de toute façon, les pathétiques associations écologistes d'aujourd'hui sont absolument incapables de nous mener sur ce chemin.
Voilà, merci. Qui a tué l'écologie, publié par les éditions LLL, Les liens qui libèrent. C'était le 16 mars dernier que ce bouquin est sorti. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce bouquin que je vous recommande chaleureusement, un bouquin de Fabrice Nicolino. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez y réécouter cette émission et nous écrire des commentaires. Et de la même façon sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon et Eric Morin, Koye Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebot. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Un mot sur ce que vous entendez derrière moi, c'est des sons que nous avons enregistré il y a bien des années, je crois que c'était en 2000 ou 2001 à San Paolo, sont des enfants qui tapent avec des semelles de souliers retrouvés sur des décharges, sur des tubes de carton.